Merci Sonia et bonjour à tous pour la séquence mensuelle du Médiateur ouverte aux questions des auditeurs. Les fausses informations, la crédibilité des journalistes, l'éducation média, beaucoup de questions que vous nous posez, eh bien nous y répondrons. Nous évoquerons aussi une émission que vous appréciez, Affaires Sensibles, sur laquelle d'ailleurs vous nous avez interrogé sur certains choix. Emmanuel Davier, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes la déléguée de France Inter à l'éducation média, à l'égalité des chances et à la diversité. On vous retrouve d'ailleurs tous les dimanches matins à 6h23 dans la chronique Interclasse, également sur le site de France Inter. Mais Interclasse est aussi une formidable opération que vous avez lancée il y a 3 ans avec les journalistes de la radio. On en reparlera. Répondons tout de suite aux questions des auditeurs concernant les fausses informations. Alors Emmanuel Macron y tient beaucoup, il veut une loi contre les fameux fake news. Des auditeurs plutôt militants s'en réjouissent, mais à contresens pour Germain, par exemple, au moins vous serez obligé d'arrêter tous vos mensonges sur Trump. Ou Adeline, enfin, vous ne pourrez plus mentir sur les bienfaits des vaccins. Bon, tout cela n'a rien à voir et tout cela, en fait, ne concerne pas les journalistes professionnels.
Bah, souhaitons-le. Souhaitons-le.
Parce que, en effet, un journaliste digne de ce nom ne publie ou ne diffuse aucune information qui ne soit vérifiée. En fait, il ne doit donner qu'une information juste.
C'est vrai, mais on peut aussi faire des erreurs que l'on corrige rapidement.
Et notamment parfois grâce au médiateur.
Absolument.
Alors cette année encore, la radio est considérée comme le média le plus fiable par les Français. C'est ce que montre l'étude annuelle diffusée mardi dans La Croix. Le moins fiable reste Internet. Or, c'est souvent la principale source d'information des plus jeunes et des moins diplômés. Alors vous qui rencontrez de nombreux collégiens ou lycéens, comment sentez-vous cette influence néfaste ?
Écoutez, cette influence néfaste, ce sont d'abord les enseignants qui l'ont constaté, des sociologues aussi, et ils ont pendant 15 ans tiré la sonnette d'alarme sans être entendus. Et il a fallu Charlie Hebdo, l'hypercachère et le meurtre des policiers pour qu'on se rende compte que l'opinion publique et puis évidemment les journalistes se rendent compte que des jeunes remettaient en cause les faits et relataient une toute autre lecture du monde grâce notamment à la très grande vitalité des thèses conspirationnistes. Alors ce qu'il est urgent de comprendre et ce que l'on voit en classe, c'est qu'il y a une partie de toute une génération qui construit son rapport au monde sur des bases qui sont fondées sur la manipulation et sur le mensonge. Et on sait très bien que pour de nombreux collégiens et lycéens, la principale source d'information, ce sont les réseaux sociaux, Snapchat, Twitter ou Facebook. Et sur ces réseaux, le pire côtoie évidemment le meilleur. Alors, face à ce qu'on pourrait qualifier de magma informationnel, il est très difficile pour un adolescent de faire la part entre le vrai et le faux, d'autant plus que personne ne leur a jamais expliqué comment décrypter une information. Donc ils naviguent entre des fausses nouvelles, des fake news, et donc se laissent facilement en effet séduire par des thèses conspirationnistes qui sont très bien faites, très séduisantes et très rassurantes. Donc, ce que l'on voit en classe, c'est que plutôt que de baser leurs opinions sur des faits, ils les basent sur des croyances, voire de la manipulation.
Donc, il faut réussir en effet à inverser tout ça.
C'est ça, et c'est ce qu'on essaye de faire à travers Interclasse.
Alors justement, tout ça plaide en effet pour un renforcement de l'éducation aux médias, comme le souhaite d'ailleurs 7 Français sur 10 dans cette même enquête dont je parlais tout à l'heure, l'enquête de La Croix. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez lancé il y a 3 ans l'opération, je pense, Interclasse. En deux mots, de quoi s'agit-il ?
Alors Interclasse a été lancé suite aux attentats de janvier 2015. C'était vraiment la volonté de Laurence Bloch de s'engager dans une action citoyenne et on s'est dit que la forme la plus...
Donc Laurence Bloch qui est la directrice de France Inter.
Absolument. Et la forme qui nous semblait le mieux convenir à cet engagement citoyen, c'était de créer des classes médias. Donc on a conçu tout un dispositif de A à Z. C'est un dispositif qui engage une partie des journalistes et des producteurs de notre station. Des groupes de journalistes et producteurs suivent pendant une année, donc c'est vraiment un temps long, une année, une classe.
C'est un temps qu'ils donnent d'ailleurs.
C'est environ 40 à 50 heures en volume horaire, donc c'est vraiment un engagement tout à fait conséquent.
Et bénévole.
Oui, c'est moitié sur du temps bénévole, moitié sur du temps de travail. Et depuis le début du dispositif, si l'on compte les enseignants, les journalistes, les producteurs et les élèves impliqués. Ce sont 800 personnes qui ont participé à Interclasse. Et ce temps long est extrêmement important. Et donc, on leur explique les mécanismes de l'information. Et moi, je le répète, une phrase que j'aime beaucoup d'Alfred Sauvy, qui consiste à dire que bien informés, les hommes sont des citoyens, mal informés, ils deviennent des sujets. Donc on leur apprend, et c'est l'enjeu d'Interclasse, à non pas quoi penser, mais plutôt comment développer leur esprit critique pour, souhaitons-le, devenir des citoyens éclairés.
Alors comment arrivez-vous à montrer, par exemple, que les journalistes, eux, sont exigeants avec l'information, contrairement notamment aux réseaux sociaux?
Alors écoutez, pour nous, la meilleure façon de leur montrer et de leur témoigner de cette exigence, c'est de leur faire faire du reportage, de leur montrer comment on travaille, et le fait d'aller sur le terrain, de se frotter, de se confronter à ce réel, leur démontre qu'on ne balance pas des infos n'importe comment, on vérifie, il faut argumenter, il faut aller rencontrer des personnes. Et donc c'est fondamental, parce qu'en produisant donc des reportages que les auditeurs peuvent écouter dans la grille de l'été, eh bien ils découvrent donc tous les mécanismes de l'info et comment des journalistes travaillent sur le terrain.
Avec aussi les contraintes, les difficultés parfois.
Ah bah bien sûr, la radio, on le sait tous, c'est l'école de la contrainte. Et c'est très important, parce que de part et d'autre, ça fait tomber les préjugés. Vous savez, on arrive dans des classes où il y a énormément de défiance à l'égard de la classe médiatique. Et cette défiance, on la comprend parfaitement, puisque généralement, ces jeunes, on a l'occasion de les voir dans des reportages lorsqu'il s'agit d'illustrer des faits divers. Il faut savoir que Interclasse ne se déplace que dans les quartiers populaires, que dans les établissements classés ZEP, REP+. Et donc, c'est vrai que ces jeunes, on leur donne une autre visibilité grâce au dispositif. Et ce qui est très important pour eux, c'est qu'ils se sentent considérés, valorisés, et on peut entendre leur voix.
Donc tout ça, finalement, ça donne une certaine satisfaction pour tous ceux qui participent à cette opération.
Oui, et d'ailleurs, c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes d'enseignants qui veulent intégrer le dispositif. Donc je profite de cette possibilité pour le redire. Il faut, on ne peut pas pour l'instant l'élargir. On tente de le faire pour l'année prochaine. Donc on y travaille. Mais j'invite ces enseignants à se rapprocher du CLEMI, qui met vraiment en place pour eux des outils tout à fait intéressants pour faire de l'éducation aux médias et à l'information en classe. Et je pense que c'est un enjeu démocratique majeur. Et j'en termine là. Pourquoi c'est un enjeu démocratique majeur? Parce qu'on sait très bien que les théories du complot, c'est le marchepied pour la radicalisation. Tous les djihadistes ou proches se sont appropriés ces thèses conspirationnistes. Donc il faut apprendre aux jeunes à s'informer, à décrypter l'info et ne surtout plus se laisser manipuler.
Merci beaucoup Emmanuel Davier pour toutes ces explications. C'est une vraie mission de service public sous une autre forme. C'est un peu ce que vous faites aussi. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Bruno.
Alors vous produisez chaque jour à 15h Affaires Sensibles, l'émission qui revient sur les grands événements des 50 dernières années. Vous les expliquez, vous les décortiquez. Les auditeurs en redemandent, à tel point que certains comme Joris s'étonnent des rediffusions. Pourquoi rediffusez-vous des émissions anciennes? Cela n'apporte rien.
Alors, nous, la règle, c'est une rediffusion par semaine pour un nouveau regard avec un nouvel invité. Voilà ce que ça apporte, un nouveau regard. Et parfois, il y a des confusions. Je vais prendre un exemple, l'affaire DSK, le volet Sofitel. Nous l'avons traité il y a quelques jours. Les auditeurs se sont dit, mais une affaire comme ça est tellement importante qu'ils l'ont déjà traitée. Ils nous la ressortent. Non, nous ne l'avions pas traitée. Nous nous laissons le temps. Je répète la règle, une rediffusion par semaine. Pas deux, pas trois, c'est une.
Alors, autre remarque d'auditeur comme Bénédicte, vos sujets soulèvent souvent des questions, des polémiques, or vous ne recevez qu'un seul invité, donc une seule opinion. Pourquoi ne pas organiser des débats?
Ça fait un peu écho à ce que disait Sylvain Bourbon tout à l'heure. Moi, je considère, avec Christophe Barrère, qui est mon compère, qui est le rédacteur en chef de cette émission, producteur délégué comme moi, nous considérons que l'information, c'est pas une minute pour les uns, une minute pour les autres. Si nous faisons une information, une émission sur le nucléaire, par exemple, sujet clivant par excellence, on va pas inviter quelqu'un de chez EDF et en face quelqu'un de chez Greenpeace, parce que ça va non pas générer du débat, ça va générer de la cacophonie avec toujours les mêmes arguments. Donc mieux vaut proposer une émission avec un responsable d'EDF comme invité, et puis 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, la fameuse rediffusion voilà. Avec un invité, par exemple un anti-nucléaire de chez Greenpeace. Voilà comment nous voulons organiser le débat, nous.
Et comme ça, chacun peut se faire sa propre opinion.
Bien sûr, on retombe sur ce que les auditeurs demandent, la confrontation des opinions différentes, mais pas dans un même espace, encore une fois, pas pour créer de la cacophonie.
Alors en deux mots, qu'est-ce qui fait une bonne émission? Comment vous choisissez vos sujets?
J'ai envie de m'appuyer sur ce que disait Jean Gabin à propos d'un film. Quand on lui disait qu'est-ce qu'un bon film, il répondait ces trois choses. D'abord, c'est une bonne histoire. Ensuite, c'est une bonne histoire. Et enfin, c'est une bonne histoire. Voilà. C'est le premier critère, une bonne histoire. Et ensuite, et ça c'est un critère important, une histoire qui a des résonances sur l'actualité. Je prends un exemple. Le Larzac a des résonances incroyables avec Notre-Dame-des-Landes. Ce sont les mêmes forces sociales qui se lèvent avec les mêmes motivations.
D'accord. Donc, en fait, tout ça, essayer de coller le mieux possible avec même l'actualité actuelle.
Bien sûr. Et les rediffusions ont aussi cette mission-là d'apporter un regard actualisé sur une affaire ancienne ou qu'une affaire ancienne vienne en appui d'une actualité. Ça nous arrive parfois de déprogrammer une émission, de faire une rediffusion parce qu'elle va donner un nouveau regard par rapport à ce qui se passe aujourd'hui.
Sur ce qui se passe, en effet, aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, Fabrice Drouel. On vous retrouve donc dès lundi pour une nouvelle affaire sensible. On parlera de quoi?
On parlera, parfois, quand vous demandez si vous avez mangé à midi, vous dites « Oh, je me souviens pas ce que
j'ai... » Bon, ce sera un très bon sujet, en tout cas. Donc, prochain rendez-vous du médiateur, c'est dans un mois. D'ici là, eh bien, vous continuez à réagir sur notre site mediateur.radiofrance.fr ainsi que sur Facebook et Twitter. Après le journal, rendez-vous avec Ali Rebéi. Et puis, bien sûr, une question toujours très intéressante. Est-on heureux de la même manière à travers le monde ?